Le Grand Matin Sud Radio. Le petit déjeuner politique.
7h44 et l'invité de notre petit déjeuner politique est là, Geoffroy Didier, bonjour.
Bonjour.
Député européen Les Républicains et vice-président de la région Île-de-France.
Bonjour Geoffroy Didier.
Bonjour.
On va parler du masque obligatoire. Alors la semaine prochaine, quand lundi, mardi, Olivier Véran a même invité les Français à le porter dans les lieux clos sans attendre de décret. Franchement, c'est encore compliqué, hein, la communication du gouvernement par rapport au masque. Vous ne trouvez pas, non ?
Si, c'est compliqué, mais ouais. Pour moi, le port du masque, c'est pas la même chose que le port de la ceinture obligatoire. Parce qu'en portant un masque, on ne protège pas seulement soi-même, mm-hmm. On protège aussi les siens et on protège ceux que l'on ne connaît pas. Donc c'est une question avant tout de responsabilité individuelle, de responsabilité collective et de civisme. C'est la raison pour laquelle, moi j'appelle tous les Français à porter un masque pour se protéger, pour protéger les autres, parce que nous savons bien que le risque d'une deuxième vague est présent. Et donc, j'estime aujourd'hui que sans attendre les questions de décret, sans même débattre de la question de savoir si Olivier Véran nous dit que c'est aujourd'hui, que le président de la République nous dit que c'est à partir du 1er août, j'estime que nous savons aujourd'hui qu'il y a un véritable risque, que le virus court toujours, que l'épidémie progresse dans le monde et que nous n'avons donc pas d'autre choix que de porter un masque. C'est une question de bon sens et de responsabilité collective.
Sauf qu'on attend souvent, enfin les Français attendent des décisions d'en haut et les critiques aussi. Il n'y a pas un cafouillage quand même là encore de la part du gouvernement dans sa communication là aussi, ou est-ce qu'il y a peut-être un vent de panique?
Ou est-ce qu'il ne fallait pas les porter plus tôt aussi?
Oui, bien sûr.
Mais c'est bien ce que je vous dis, c'est-à-dire qu'il ne fallait même pas attendre l'éventuel 1er août ou l'éventuel décret du président de la République ou du Premier ministre pour considérer le port du masque comme obligatoire. Et il y a eu en France un relâchement dû aussi à une volonté à un moment de se libérer de cette période très tendue et qui nous a tous stupéfiés, et je le comprends.
Ouais.
Et ce relâchement, il n'était pas bon, mais en même temps, il était humain. Mais j'estime aujourd'hui que, vu que le risque de la deuxième vague est présent et plus que d'actualité,
pour vous, il existe,
nous n'avons pas d'autre choix que de porter un masque. Alors, là aussi, c'est une question de bon sens. Quand on est dans la rue et qu'on ne croise personne parce qu'on se promène le matin, on n'est pas forcément obligé de porter un masque. Mais lorsqu'on est au supermarché, lorsqu'on va dans les toilettes d'un restaurant, lorsqu'on est dans un lieu clos ou lorsqu'on est dans un lieu public, comme on l'a vu notamment pendant la fête de la musique ou cette semaine à l'occasion du feu d'artifice du 14 juillet à Paris, et qu'il y a plein de gens autour de soi, le minimum, c'est de protéger les autres.
D'accord, alors vous parlez de responsabilité individuelle, ça c'est sûr, mais il y a beaucoup de questions qui se posent. Un client arrive dans un magasin non masqué, qui va faire respecter cette consigne? Nous, on a eu beaucoup de commerçants, encore hier, Benjamin, qui nous disent, nous, on se retrouve aussi à gérer l'agressivité des clients. Donc c'est la responsabilité individuelle, mais c'est la responsabilité de qui?
C'est la police, c'est le commerce, c'est compliqué.
On va pas raconter l'histoire, on va pas mettre de policiers dans chaque supermarché de France.
C'est sûr.
Donc, il faut faire appel au civisme, il faut faire appel au respect. Mais vous savez, le respect, c'est une valeur qui est totalement oubliée de l'action publique, du débat politique et malheureusement souvent aussi du comportement des gens. Nous sommes dans une société où on ne se respecte plus, on ne respecte plus grand-chose, on ne respecte plus les personnes âgées, on ne respecte plus les consignes. Donc, je ne peux pas vous dire mieux que le fait que c'est une question de responsabilité individuelle, de partage d'informations, plutôt que d'attendre à chaque fois d'en haut des choses qui ne peuvent... Parce que on aura beau dire que le masque est obligatoire, si une personne ne respecte pas les consignes, on sait très bien qu'on n'aura pas de policiers derrière chaque supermarché ou chaque caisse de supermarché. Donc moi, ce que je souhaite, c'est que chacun respecte les consignes et se réapproprie le respect comme une valeur cardinale.
Geoffroy Didier, vous êtes vice-président de la région Île-de-France. On l'a vu, la Seine-Saint-Denis qui est repassée au-dessus du seuil de vigilance. Les médecins, notamment là-bas, parlent de nombreux patients qui ont contracté le Covid à l'étranger. Est-ce que ça veut dire que la France prend assez ou pas assez de précautions aux frontières?
Je ne suis pas certain aujourd'hui qu'il y ait suffisamment de protection.
C'est-à-dire,
et lorsque on revient de l'étranger et qu'on vient en France aujourd'hui, et qu'on arrive à l'aéroport, on ne se fait pas prendre systématiquement sa température. Je me suis rendu en Algérie début mars, avant le confinement.
Oui.
On prenait déjà ma température lorsque j'arrivais à Alger, à l'aéroport.
Alger.
Lorsque je suis revenu d'Algérie, Donc début mars, alors qu'on était sur le point d'être confiné, on ne prenait pas ma température à l'aéroport Charles de Gaulle. Et d'après ce que je comprends, puisque je n'ai pas pris l'avion depuis, on ne la prend toujours pas. Mmh. Là, il y a un problème.
Et là, la décision vient d'en haut, là, pour le coup.
De quarantaine comme... non plus. Ouais.
Non, il n'y a aucune raison qu'un pays comme l'Algérie ou comme dans beaucoup d'autres pays, lorsque je vais au Parlement européen à Bruxelles, on prend ma température systématiquement lorsque j'arrive au Parlement européen. Pourquoi ne le ferait-on pas avec toutes les personnes qui viennent de l'étranger, alors qu'on sait très bien que le virus circule et qu'il circule aussi beaucoup dans d'autres pays? Pourquoi ne prendrait-on toujours pas la température de manière systématique aux aéroports? Ça, c'est un vrai sujet. Et pour moi, c'est un sujet beaucoup plus intéressant que de savoir si c'est lundi, mardi, mercredi ou 1er août qu'on doit faire le port, qu'on doit mettre le port du masque obligatoire.
Là,
pour moi, c'est dès maintenant.
Oui, il y a urgence. Quand on entend le Premier ministre, Jean Castex, qui annonce pour la rentrée un projet de loi contre les séparatismes, les communautarismes, qui met l'accent sur la sécurité, la lutte contre les incivilités, c'est un gouvernement qui fait du Sarkozy, finalement.
Nous sommes dans une société qui est extrêmement fracturée, où les violences gratuites progressent de manière exponentielle, où les coups et blessures, nous sommes le deuxième pays européen en termes de coups et blessures. Le taux d'homicide, c'est-à-dire de meurtre et d'assassinat, est le plus important depuis 10 ans. Le trafic de drogue a augmenté de 41% en 3 ans. Et il y a dans notre pays 650 cambriolages de maisons et d'appartements par jour. Donc oui,
donc ça c'est le constat.
Non mais c'est un constat qui est alarmant.
Bien sûr,
alarmant,
ça n'enlève pas.
Criant.
Mais ça c'est le constat.
Et la violence progresse. Donc oui, forcément, je ne peux qu'être heureux des mots utilisés par le Premier ministre. Et moi je préfère la réussite de mon pays à celle de mon parti. Donc je n'attends pas d'être de la majorité pour espérer que le gouvernement réussisse.
Et alors concrètement, qu'est-ce que vous attendez justement dans un projet de loi comme celui-ci contre les séparatismes? Qu'est-ce qui vous semble urgent concrètement?
Alors, ne mélangeons pas les sujets. C'est-à-dire que le séparatisme, c'est la lutte contre le communautarisme et contre tous ceux qui mettent leur foi au-dessus de la loi et qui défient la République française.
On n'est pas sur la question des violences au sens large.
Et il y a d'autre part, même si tout peut aussi se mélanger et se confondre, des violences gratuites ou des violences des coups et blessures, des cambriolages, des crimes qui progressent de manière alarmante. Je le dis parce que je crois qu'il est temps de tirer la sonnette d'alarme et d'être en connexion avec ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain. Bon, donc, sur les violences, moi j'estime par exemple qu'il faut expulser les délinquants étrangers. C'est-à-dire que lorsqu'on vient dans un pays, moi j'ai vécu à l'étranger pendant 4 ans, j'estimais normal, sain et logique que si j'avais commis un délit dans le pays qui m'accueillait, on me dise, monsieur Didier, vous reprenez l'avion et vous ne revenez pas dans le pays. Eh bien, ce que j'estime logique pour moi-même, je l'estime pour les autres. Il y a aujourd'hui 25% des personnes qui sont écrouées, c'est-à-dire qui sont en prison, qui sont étrangers. Il n'y a aucune raison que ces personnes-là qui peuplent nos prisons alors que nous souffrons d'une surpopulation carcérale restent en France. Je suis pour l'expulsion des délinquants étrangers. Je suis pour que l'on arrête avec les remises de peine systématiques, que l'on mette en place des peines planchers, c'est-à-dire des peines minimum lorsqu'on a déjà commis un délit ou un crime. Des choses simples, des choses de bon sens. Je ne sais pas si elles sont de droite ou elles sont de gauche, mais en tout cas, elles deviennent nécessaires et elles sont hautement républicaines.
Alors, justement, Geoffroy, pardon, Didier...
Mais vous pouvez m'appeler par mon prénom.
Pourquoi?
C'est très simple.
Surtout que j'en ai deux.
Oui, c'est ça.
Il y a le choix.
Non, mais plus sérieusement, bon, on va reparler de votre ancien collègue, hein, Gérard Darmanin, qui justement est très présent sur le terrain des violences auprès des forces de l'ordre, des pompiers. Mais franchement, en ce moment, Gérald Darmanin, qui s'est dit d'ailleurs hier victime d'une chasse à l'homme, est-ce que sa parole est vraiment crédible, honnêtement, aujourd'hui?
Je me suis toujours fixé un principe.
Il n'y a pas un problème, Darmanin?
Non.
Il n'y a pas de problème d'Darmanin?
Non. Parce qu'il ne doit pas y en avoir dans une république où il existe des tribunaux et où la suspicion ne fait pas une preuve. Où le buzz médiatique n'est pas un tribunal judiciaire et ne doit pas l'être sous aucun prétexte.
Sauf qu'il est, pardon, il est à la
les
tête d'un ministère. Pardon,
ne
il est à la
pas
tête
des
d'un ministère.
Mais je suis désolé.
Ça pose un vrai mais problème
non,
de symbole
non,
quand
non,
même.
Non, restons sur des choses. Si possible, sur des principes sains et que nous fixons comme absolus. Il y a des tribunaux qui condamnent ou qui acquittent. Laissons-les faire. Chacun a son rôle dans la société. Moi, je me suis toujours fixé, même à l'égard des personnalités politiques que je n'apprécie pas voire que je combats, un principe simple et un principe clé, c'est celui de la présomption d'innocence.
Oui, ça, on l'a
donc
bien
ce
compris.
N'est pas parce que je... Bah oui, mais je suis désolé, mais j'aimerais que tous les responsables politiques, notamment ceux de ma famille politique, se fixent comme principe celui de la présomption d'innocence. Donc si une personne est condamnée de manière définitive, ça ne veut pas dire qu'elle est à jeter au rebut, mais elle est condamnée et elle doit en tirer des enseignements politiques lorsqu'elle est par exemple ministre. Mais tant qu'une personne n'est pas condamnée, eh bien je... Mais ce que je dis pour Gérald Darmanin, je vous le dis pour vous aussi. Je vous le dis pour vous. Je vous le dis pour chacun de ceux qui nous écoutent, je le dis pour moi-même. C'est-à-dire qu'il suffit d'attaquer, de dénigrer, de dénoncer pour que l'on estime que l'on soit condamné et à jeter à la poubelle. Ben non, ça ne doit pas fonctionner comme ça, une société.
Une autre question.
Je voudrais qu'on continue avec l'Europe, bien sûr, Geoffroy Didier, avec un sommet européen capital qui s'ouvre aujourd'hui. Et cette question du fonds de relance, autour de 750 milliards d'euros. C'est un plan qui divise profondément l'Europe. Est-ce que vous pensez qu'on va parvenir à un accord aujourd'hui ou demain ?
Ce sera difficile. Je suis favorable au principe même d'un plan de relance. Je suis favorable au fait qu'il y ait une solidarité au sein de l'Union européenne, parce que c'est le principe même d'un projet européen. Mais je voudrais quand même dire à ceux qui nous écoutent que les 750 milliards d'euros, ils ne tombent pas du ciel. Il n'y a pas d'argent magique. Ces 750 milliards d'euros, ils n'existent pas aujourd'hui. Et ils n'existeront pas plus s'il y a un accord politique de samedi ou dimanche. Ces 750 milliards d'euros, c'est une somme vertigineuse. Ceux qui, je veux dire, pour tout le monde,
qui a
du mal à arrondir ses fins de mois, entendre parler de centaines de milliards d'euros au-dessus à Bruxelles, c'est juste inconcevable. Mais ces 750 milliards d'euros, ils vont être intégralement empruntés, et c'est-à-dire que nous allons devoir les rembourser. Oui, mais ça vous paraît une évidence. Mais ce n'est pas forcément une évidence pour tout le monde.
Mais au-delà de ça, c'est
beaucoup. Et il faut aussi savoir, parce qu'il faut savoir à quoi on s'engage, on va les dépenser, d'après les propositions de la Commission, en 4 ans seulement, mais on va mettre 30 ans à les rembourser. C'est-à-dire que nos enfants, et pas seulement nous-mêmes, devront encore jusqu'à 2058 rembourser ce que nous allons dépenser en 4 ans.
Alors,
ça pose des questions quand même.
On rembourse déjà la dette française, c'est-à-dire qu'on va rembourser une dette européenne.
Oui, et j'estime là que l'Europe se met aussi en danger. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas favorable à un plan de relance, mais se met en danger, épuise ses cartouches, brûle ses vaisseaux, parce que qu'est-ce qui nous garantit qu'on n'aura pas une nouvelle crise dans 2 ans ou dans 3 ans ? Et dans ces cas-là, il n'y aura plus de marge de manœuvre financière, parce qu'on aura tout dépensé pendant 3 ans et qu'il faudra encore 30 ans pour rembourser cet argent. Et puis, il va falloir le rembourser avec quoi ? Avec de l'argent. Alors, la Commission propose, par exemple, une taxe carbone, c'est-à-dire pour fiscaliser et faire payer les entreprises chinoises ou américaines quand elles ne respectent pas nos normes environnementales. Ça, c'est très bien. Mais j'ai regardé dans le texte de la Commission européenne. Il propose aussi une taxe sur les grandes entreprises. Et là, je me suis dit, mais qui sont ces grandes entreprises ? Moi, je ne voudrais pas que ce plan de relance soit en fait l'occasion d'un impôt caché et où l'on découvre que les entreprises qui ont déjà le taux d'impôt sur les sociétés le plus élevé d'Europe en France se mettent en plus à devoir rembourser et payer, et finalement payer un nouvel impôt qu'on nous aurait caché. Ça, c'est pas acceptable. Il va falloir être très vigilant là-dessus. Et comme député au Parlement européen, je le serai.
Bien sûr, merci beaucoup, Geoffroy.
Merci.
Je rappelle, député européen Les Républicains et donc vice-président de la région Île-de-France. Merci à vous. Très bonne journée.
Allez, merci. Et après les infos, on va parler des résultats de la dernière étude de IFOP Fiduciale pour CNews et Sud Radio, avec des résultats très intéressants.
On va parler
sur
masque,
le port du masque et l'image du président Macron.
Oui,
étonnant.